En ce samedi saint, nous retrouvons l'abbé Philippe Baïtia. Bonjour.
Bonjour.
Alors, le samedi saint, c'est une liturgie très particulière dans l'année liturgique.
Alors, on a l'habitude de dire que le samedi saint est un jour aliturgique. Ce n'est pas tout à fait exact.
C'est-à-dire sans liturgie.
Sans liturgie. Bien sûr, on ne célèbre pas l'Eucharistie, mais on célèbre, par exemple, la liturgie des heures, quoi, l'office. Bien. Et donc,
on peut pas faire d'obsèques, on peut donner la communion aux malades, oui.
Alors, on peut faire des obsèques, mais plus sobres. Hein. Là, on peut porter la communion aux malades et aux mourants. C'est-à-dire, voilà, le samedi saint, on va faire ce qui est urgent, qu'on ne peut pas ne pas faire, hein, en gros. Et ce jour à liturgique, pour ainsi le dire, voilà, symbolise un peu donc l'Église qui veille auprès du tombeau du Christ d'un côté, c'est cette attitude, et qui attend avec espérance sa résurrection, et bien entendu aussi à travers ce que nous dit la liturgie des heures, et aussi toute l'activité, si je puis dire, de Jésus dans le samedi saint.
Alors Jésus, il est où le samedi saint?
Les symboles de la foi, les credos vont dire que le Christ est descendu aux enfers. Les enfers, le Sheol des Juifs, l'Hadès des Grecs, voilà, c'est le séjour des morts. Donc, une des significations de... Bon, les anciens se faisaient une idée, voilà, le ciel avec des robinets ou que Dieu ouvrait pour qu'il pleuve, la terre qui était un disque plat et les enfers qui étaient le séjour des morts, c'est-à-dire en dessous. Donc, quand on confesse que Jésus est descendu aux enfers, on confesse que Jésus a connu la mort, qu'il a connu la mort dans toute son épaisseur, qu'il n'en a pas été dispensé, qu'il l'a vécu avec toutes ses affres, qui ne se limite pas aux douleurs physiques de la croix. On peut penser à l'agonie, bon, ce genre de choses. Jésus a vraiment su ce que c'était qu'être homme. Et depuis la chute, toute vie humaine se poursuit dans ce royaume de la mort. Jésus n'échappe à rien de ce que connaît l'homme depuis le péché, puisqu'il a été fait péché pour nous. Donc voilà, on est avec la logique de l'incarnation. Jésus a vécu ainsi jusqu'au bout, sans rien éluder de ce qu'est la vie de l'homme, la kénose, l'abaissement de l'incarnation, une kénose qui est totale.
Quel est le sens actuel de cette descente aux enfers?
Donc, il va y avoir plusieurs aspects. La descente aux enfers, quand on va y réfléchir dans l'Église, chez les écrivains chrétiens, chez les pères de l'Église, d'abord, on va y voir un combat victorieux du Christ contre le démon. La descente aux enfers nous dit qu'après sa mort sur la croix, le Christ poursuit dans l'ultime repère du démon et du mal la lutte contre le péché, le mal et la mort qu'il a commencé depuis l'incarnation, qu'il a poursuivi durant sa vie publique, par sa prédication, par les guérisons, les exorcismes, le pardon des péchés, et qui culmine sur terre dans la passion et sur la croix. Mais ce combat n'est pas terminé, il doit s'achever dans le dernier combat contre le mal en son lieu propre, sur son propre terrain, dans les enfers, là où il règne précisément et presque sans contrainte, hein, chez l'adversaire. Et donc, si on veut, comme vous le demandez, voir quel est le sens pour nous aujourd'hui, cette dramatisation, hein, de la présentation de ce combat entre le Christ et le démon nous montre que le péché atteint l'être profond de l'homme. La descente aux enfers va jusqu'à dire que le combat de Jésus va jusqu'au plus profond de l'homme, marqué par le mal. Le mal qui est une erreur, un détournement de destinée, d'après la Bible. Que ce combat doit déboucher sur une victoire contre celui qui a empêché l'accès à la vie, qui a fermé l'accès à la vie, qui constitue la fin et la destinée de l'homme. Donc, le combat du prince de la vie contre le démon, prince de la mort, qui détient la vie en otage doit rouvrir l'accès à la vie. La résurrection apparaît ainsi comme une victoire.
Y a-t-il d'autres aspects liés à cette descente aux enfers du Christ ?
Alors oui. Donc là, le Nouveau Testament, la première lettre de Pierre, 3:18-20, et toujours première lettre de Pierre, 4:6, nous dit que le Christ descend aux enfers et qu'il est allé prêcher même aux esprits en prison, rebelles d'autrefois, quand se prolongeait la patience de Dieu au jour de Noé. Donc, la descente aux enfers veut mettre en relief le fait que la prédication salutaire du Christ, bien, Jésus vient l'apporter aussi à ceux qui n'ont pas pu le connaître en terre de Judée et de Galilée. Le Seigneur vient leur annoncer à eux aussi la bonne nouvelle du salut, alors seulement s'accomplit toute l'évangélisation. Donc, si on avait à mettre en lumière un sens pour aujourd'hui, on pourrait dire que la descente aux enfers indique que le salut est pour tous les hommes, que la prédication, la passion et la croix du Christ sont proposées à tous les hommes, comme elles l'ont été à ses contemporaines de Palestine. On note, quand on lit la première de Pierre, que cette prédication ne s'adresse pas seulement aux justes, au sein de l'Ancien Testament, mais aussi aux pécheurs. Saint-Pierre parle de rebelles. Donc, tous les anciens vont pouvoir bénéficier de la révélation salutaire de Dieu en Jésus-Christ, la connaissance de Dieu, et adhérer ou non, par la foi, à son message.
Cette descente aux enfers, elle se situe dès que Jésus rend son dernier souffle sur la croix, jusqu'au matin de Pâques. Comment ça se passe ?
C'est comme ça qu'on l'envisage. Voilà, dans l'Antiquité, ben voilà, on considère que quelqu'un meurt et puis qu'il descend aux enfers. Et avec le temps, ben voilà, il y aura des enfers pour ceux qui sont des justes et des enfers pour les damnés. Voilà. Donc, quand on dit que Jésus est descendu aux enfers, voilà, on considère qu'après sa mort, il descend dans les enfers, donc pour réaliser l'œuvre que nous venons de décrire.
Et ensuite, il va ressusciter.
Voilà, la descente aux enfers, c'est une sortie bienheureuse, victorieuse. Donc, ayant séjourné dans les enfers, le Christ sort des enfers. C'est un véritable exode. Et enfin, il ressuscite. Donc, la résurrection de Jésus, sur le plan personnel, est résurrection des enfers, c'est-à-dire une résurrection du lieu où on connaît vraiment la mort. Et donc, la sortie, la résurrection des enfers est une victoire contre le mal dont les hommes souffrent captifs. Et dans la liturgie, on va se souvenir de ça. Quand on baptisait des adultes dans l'Antiquité, on les plongeait trois fois dans l'eau de la piscine baptismale, et les auteurs anciens considèrent que ces trois immersions symbolisent les trois jours de sépulture dans la mort du Christ. Et que le fait que le baptisé ressorte debout de ces trois immersions, eh bien, symbolise bien sûr la résurrection du Christ. Voilà. Et donc le baptisé, le baptême chrétien, c'est une plongée dans la mort du Christ et une sortie victorieuse avec lui de la mort. Et donc, les tableaux vont nous montrer Jésus, les icônes, ayant fait éclater les portes de bronze, on voit des vis partout, tout ça, puis tirant dans une espèce de farandole, en quelque sorte, ceux qui sont dans les enfers, ceux qui sont morts. Ça veut nous dire que la résurrection de Jésus est, bien sûr, sa propre résurrection, mais qu'elle est aussi celle des autres. Que ce n'est pas seulement une victoire personnelle, mais c'est une victoire qui empoigne ceux qui étaient déjà morts et victimes de la perdition. Jésus est en même temps celui qui est ressuscité, celui qui va ressusciter d'autres, celui qui est arraché au mal et à la mort, et celui qui arrache au mal et à la mort pour entraîner dans la vie ceux qui restaient prisonniers.
C'est ce que nous allons tous vivre un jour. Nous l'aspirons, c'est notre foi, c'est notre espérance.
Oui, c'est notre foi, c'est notre espérance. Là, et la liturgie, par exemple, de l'Ascension nous montre un peu le Christ, chef de cordée, tirant un peu toute l'humanité vers la gloire du Père.
Merci beaucoup, Abbé Philippe Beitia. Très bonne fête de Pâques à vous et à tous nos auditeurs.
Bonne fête de Pâques aussi.